Ce soir, c'est M. Robert Isaac qui commence par la série de ses conférences. Je vais vous inviter en fin de séance la suite de ses conférences pendant la semaine. Et si je devais, à proprement parler, vous présenter Robert Isaac, je craindrais de prendre trop de temps de la soirée. D'autant plus qu'il n'est pas un inconnu pour vous. Simplement, je voudrais vous signaler que professeur de philosophie éthique à l'Université de Paris 1, Robert Mizrahi, qui est d'abord lui-même, est connu comme spécialiste de l'œuvre et de la pensée de Spinoza. En particulier, entre autres ouvrages, il est le responsable, si j'ose dire, de l'édition des œuvres de Spinoza que vous pouvez encore trouver aux éditions Segers, datées de 1964. D'autre part, sa pensée a aussi touché directement à des sujets de préoccupation propres à l'identité juive et à sa propre philosophie. Et en particulier, il nous a donné un livre de philosophie sur un sujet personnel et touchant les thèmes de la tradition juive, et qui est intitulé, qu'on pourrait intituler d'ailleurs, « Lumière et liberté ». C'est une réflexion sur la lumière du commencement. Et Robert Mizrahi écrit beaucoup, et vous pouvez trouver ce texte, notamment en ce qui concerne l'œuvre de Spinoza, dans ce qui a été édité dans la plupart des revues spécialisées dans l'année 1977, qui était l'année du tricentenaire de Spinoza. Ce soir, il nous communiquera une réflexion sur le problème des fondements des utopies, et en particulier dans une perspective de recherche de l'utopie comme bonheur, ou du bonheur comme utopie. Avant de lui céder la parole, je voudrais vous signaler, et nous aurons sa pensée en contraste, cette nouvelle malheureuse que je vais vous dire, que nous venons d'apprendre le décès du professeur Gershon Scholem, qui a été un des plus grands savants de l'histoire de la mystique juive. Mais nous redescendons dans l'histoire, tout court, et je cède la parole à Robert Mizrahi.
Merci bien. Je remercie mon ami Eskenazi de tout ce qu'il vient de dire et j'espère en effet remplir ce programme. Je vais tenter de faire une analyse un peu détaillée. C'est une séance de travail. Je considère notre réunion comme une séance de travail et non pas comme simplement une conversation autour et un commentaire sur les thèmes. Mais cependant, afin que vous puissiez saisir mieux le sens et rassembler tous les détails autour d'un fil conducteur, je vais vous donner tout de suite ce que je voudrais démontrer. Je vais vous résumer tout de suite ce que je voudrais démontrer, quitte à le montrer en détail, parce que je ne me satisfais jamais des affirmations qui ne sont que des affirmations. Mon idée est celle-ci. Les utopies, dont je dirai tout à l'heure l'importance. Les utopies, de toute façon, cependant, pêchent par un défaut à mes yeux, un défaut théorique, c'est qu'elles n'ont pas donné leur propre fondement. Rarement, elles donnent leur propre fondement. Leur base, leur justification, leur condition de possibilité, leur raison d'existence. Et mon hypothèse est celle-ci, c'est qu'on pourrait donner aux utopies, quelles qu'elles soient, leur fondement en réfléchissant d'un peu près sur le bonheur. Je ne dis pas que le bonheur est une utopie, je dis qu'il est le fondement réel des utopies en général. J'expliquerai tout à l'heure en quel sens j'entends tout cela. Pour que cela soit plus clair, maintenant je vais donc reprendre le problème dès le départ, dès la base. Notre problème, c'est notre situation par rapport à l'avenir. Quelle est notre place par rapport à l'avenir? Ou, si vous voulez, j'évoque le problème qui consiste à savoir quelle attitude faut-il adopter, en général, face à l'avenir. Devant cette question, on répond en général par l'opposition simple, par l'opposition de deux attitudes fondamentales, opposition non encore démonstrative. La première branche de l'opposition, est constitué, si vous voulez, par l'ensemble de ce que j'appellerais la philosophie pessimiste. Face à l'avenir, une réponse est possible, l'attitude pessimiste. Or, ces philosophies pessimistes, vous le savez, sont extrêmement, d'une part, nombreuses, d'autre part, importantes et prégnantes. Les philosophies pessimistes tournent, par exemple, autour de l'idée de néant, autour de l'idée d'impossible, autour de l'idée de mort. Et si je cite, par exemple, Schopenhauer, Heidegger, même Sartre, parfois Lacan, on aperçoit que la philosophie contemporaine, le paysage philosophique contemporain, notamment en France où nous sommes, est un paysage extrêmement pessimiste, et il est pessimiste jusque dans son fond, dans le fond de sa réflexion. On pourrait également évoquer d'autres manières d'aborder cette attitude à propos de l'avenir, ce serait la manière politique. Du point de vue politique, la pensée qui prévaut dans cette perspective pessimiste est une pensée catastrophique. On dit et on va répétant que la violence est insurmontable, que la décadence est nécessaire, que les catastrophes sont inévitables. Alors, soit dans une perspective philosophique pure, soit dans une perspective historique, on est placé devant un avenir sombre. Voilà l'une des attitudes les plus fréquentes. Parfois, l'attitude pessimiste prend une nuance. Elle se borne non à déclarer l'impossibilité de ce que je vais appeler provisoirement la perfection. L'attitude pessimiste n'affirme plus absolument l'impossibilité de la perfection. Elle se borne à en reporter la réalisation. Et je pense ici au christianisme et à l'islam. Autres doctrines qui sont entre la philosophie et la politique, qui sont de l'ordre de la croyance ou des doctrines traditionnelles, et qui font un report métaphysique du salut. Si bien que, vous le voyez, l'attitude que je décris là n'est pas une simple possibilité théorique que de temps à autre on adopterait. Nous constatons que cette possibilité théorique est extrêmement, d'une manière extrêmement fréquente, adoptée. Elle est en fait cela qui nourrit la philosophie ici, la philosophie occidentale. Alors, à cela, on opposerait, et c'est ainsi qu'on est tenté de résoudre le problème de l'avenir, à cela, on opposerait une attitude optimiste. On ne ferait que une sorte d'affirmation de contre-pied, une sorte d'affirmation dialectique, on renverserait les termes et on aurait alors l'affirmation, par exemple, du prophétisme ou du messianisme. Si l'on n'entre pas dans l'analyse détaillée, comme tu le feras au cours de ces travaux, analyse détaillée que tu vas faire sur des textes, que tu vas faire par ta propre réflexion, si l'on se borne à une évocation simple de l'idée de prophétisme, à l'évocation superficielle selon laquelle, par exemple, le judaïsme est un messianisme, on est en présence d'une affirmation optimiste qui, peut-être, n'est pas plus fondée que l'affirmation précédente. Elle n'est pas plus fondée, mais elle nous parle plus, elle ouvre l'avenir. Il faut préciser cependant que l'expression de prophétisme, à mon sens en tout cas, ne veut pas simplement dire, la prophétie n'est pas à mon sens une sorte de futurologie avant la lettre, la prophétie ne consiste pas à annoncer et à lire l'avenir avant sa réalisation, même lorsqu'elle se présente comme une annonce. Je crois que la prophétie se présente dans la plupart des cas comme l'établissement d'un lien éthique entre une attitude présente et des conséquences futures, en général catastrophiques. C'est-à-dire que la prophétie n'est pas du tout un travail de magie prémonitoire, mais elle est un travail de raison éthique, de raison morale. Le prophète opère le raisonnement suivant, puisque vous vous conduisez d'une manière aussi odieuse à l'égard de la religion, eh bien, vous subirez toutes les catastrophes que je vais détailler. Et le prophète détaille toutes les catastrophes qui sont donc des punitions. Cependant, à l'intérieur de ce prophétisme moral se trouve aussi une autre dimension du prophétisme plus connue et qui est l'annonce de la rédemption. Et ce prophétisme, on le trouve d'abord, bien entendu, dans nos textes, et ensuite, il se répand, s'affaiblissant un peu, dans le christianisme. Mais dans nos textes, il est l'annonce de la rédemption, appuyée simplement, l'annonce de l'ère messianique, appuyée simplement sur la croyance, sur l'affirmation. Alors, le problème que cela nous pose, c'est que nous avons là, certes, une autre attitude, nous avons là l'image d'une autre attitude que l'attitude pessimiste. Du point de vue logique, cela nous montre la contingence de l'attitude précédente. Le fait qu'une attitude comme l'attitude messianique existe révèle, à contrario, que l'attitude tragique est une attitude contingente et non pas nécessaire. Mais il faut faire le raisonnement inverse également. Le fait que les attitudes tragiques existent prouve que l'attitude messianique est une attitude contingente et non pas nécessaire. Et jusqu'ici, on se trouve simplement en présence de deux options. Et c'est dommage, parce que être en présence de deux options, ça veut dire simplement que suivant son tempérament, son caractère, on va être plutôt pessimiste ou optimiste et on va choisir tel système de doctrine plutôt que tel autre. Ou bien alors, on va choisir selon la culture où l'on est né. Si l'on est né juif, on sera plutôt prophétique. Si l'on est né allemand, on sera plutôt heideggerien. Pour nous, tout cela ne peut pas suffire, évidemment. Ne peut pas suffire, mais nous montre qu'il faut réfléchir de très près sur cet avenir. Et c'est ici qu'intervient quelque chose d'original. C'est ici qu'intervient la pensée utopiste. La pensée utopiste est à l'intérieur de ce que l'on peut appeler d'abord attitude optimiste. La pensée utopiste est l'une de ses illustrations. Mais au lieu de s'appuyer sur une interprétation métaphysique du monde, elle se borne à décrire un type idéal de société. C'est sur ce fait que nous allons réfléchir. Parce que il existe sans doute dans la prophétie ancienne, chez nos prophètes, il existe sans doute une annonce de quelques éléments qui seront réalisés dans la future société rédimée ou sauvée. La guerre sera supprimée, la justice sera établie. Mais ce sont des formules générales importantes qui ont servi de ferment, mais qui sont générales. Voici que les utopies vont entrer dans le détail de la description de l'avenir. C'est pourquoi elles présentent, ces utopies, elles présentent pour moi un certain avantage sur les deux autres attitudes précédentes, c'est qu'elles vont peut-être nous permettre, peu à peu, de trouver les raisons qui justifieraient d'une façon rationnelle notre optimisme. Je ne peux pas justifier rationnellement mon optimisme si je suis simplement messianique pour une raison métaphysique. Je ne peux pas le justifier puisque, à la limite, je rencontrerai la croyance. Et je ne peux pas justifier non plus les philosophies tragiques. À la limite, finalement, on trouve également attitude et croyance. Mais les utopies ne sont pas des philosophies de la croyance, elles se présentent d'entrée de jeu d'une façon assez curieuse, à la fois comme des poésies et comme des raisonnements rationnels, comme des constructions rationnelles et poétiques d'un avenir social. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, elles se présentent comme œuvres humaines dont elles proposent, qu'elles proposent à autrui et dont elles proposent l'examen rationnel. Si l'on pouvait creuser vraiment la nature de l'utopie, peut-être pourrions-nous obtenir ici à la fois certitude et efficacité quant à la construction d'un avenir heureux. C'est ça le problème. Il s'agit de construire un avenir positif. Vous verrez peu à peu que je crois que c'est le seul vrai problème de la philosophie. C'est-à-dire que tous les autres problèmes se tournent autour de cela. Comment construire la joie ? C'est-à-dire comment aujourd'hui construire la joie de demain et la conserver et la maintenir, bien sûr. Et bien maintenant, après cette introduction, nous allons réfléchir un peu sur l'utopie. je vais, sur l'utopie, essayer d'opérer une réflexion formelle. C'est-à-dire une réflexion générale. En général, lorsque une réflexion formelle, oui, sans citer trop d'exemples, parce que lorsque l'on cite trop d'exemples, on se perd dans la quantité invraisemblable d'utopies qui existent, et puis on tombe curieusement, parce qu'en citant des exemples, on ne peut pas rendre compte de la totalité d'une œuvre, on tombe dans l'anecdotique, et puis très souvent dans la simplification. Quand on cite des exemples d'utopies, on appauvrit les utopies. Parce que très souvent, quand on cite des exemples de législation particulière, n'est-ce pas ? Le fait, par exemple, que chez Thomas More, les chaînes des prisonniers seront en or. Alors, pour bien comprendre cela, il faut le situer dans le contexte. Ça n'est pas quelque chose d'arbitraire, ça semble arbitraire. J'éviterai de trop citer les détails. Je vous simplement évoquer quelques ouvrages fondamentaux. Parce qu'il est clair que, je crois en tout cas, ce qui se fait ici ne peut avoir son efficacité que si vous faites vous-même un travail de lecture. Alors, pour l'utopie, il y a bien sûr la République de Platon, naturellement, mais aussi, vous le savez, Utopia de Thomas More. Et puis, je trouve qu'il est particulièrement représentatif du genre utopiste, La Cité du Soleil. La Cité du Soleil de Campanella, qui est un moine italien de la Renaissance, qui a vécu, sauf erreur, 40 ans en prison, et qui écrit une très belle utopie. Je vous signale comme instrument de travail des choses que vous connaissez sans doute, vous m'excuserez de les répéter, mais je vous les rappelle. Une histoire de l'utopie par Jean Servier, et de même des ouvrages de Edmond Ruyère, L'utopie et les utopies. De même, un livre de Gilles Lapouge, Civilisation et utopie. Enfin, un ouvrage dont j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure pour en faire la critique, un livre de Julien Freund, Violence et utopie. Je vais supposer maintenant que vous savez à peu près ce qu'est une utopie, et je vais réfléchir d'abord sur ce qu'elle nous apprend. Ce que l'existence des utopies en tant que telle nous apprend. Que l'utopie existe, ça révèle quelque chose. Quoi ? Un certain nombre d'éléments que je vais énumérer. Et ces éléments sont révélés d'une façon indiscutable. Je fais un raisonnement indirect. Ce qui va nous être révélé n'est pas révélé par le contenu des utopies, auquel je ferai finalement très peu allusion. Ce qui va nous être révélé par l'existence du livre utopiste. J'ai oublié de vous signaler tous les travaux de Fourier et de Cabet, Voyage en Uchronie, et puis tout Fourier, le nouveau monde industriel, etc. L'harmonie universelle, etc. Je vais réfléchir donc sur la signification de l'existence de la pensée utopiste. Pas sur la législation. Ce qu'on fait d'habitude. Alors, on fait vite le tour, croit-on d'ailleurs. La plupart des utopies sont expressives, elles révèlent ce que j'appellerais d'abord, c'est le premier point qui me paraît le plus important, l'expressivité métaphorique de l'espace. L'espace pour l'utopie, l'utopiste sait que l'espace a une signification existentielle qui dépasse de loin la signification géographique de l'espace ou sa signification géométrique ou sa signification physique. Un espace, c'est un lieu où l'on demeure, un lieu où l'on habite. Et dans l'utopie, l'espace est toujours un autre espace. C'est un espace lointain. C'est un espace ailleurs. La plupart des auteurs d'utopie font un récit indirect, soit qu'un voyageur, le récit d'un voyageur, il raconte le récit qu'un voyageur leur a fait, voyageur qui a raconté et son voyage et les découvertes qu'il a fait en terre australe, par exemple, ou dans une certaine île. Mais d'abord, il y a eu un autre lieu qu'un voyageur a abordé. L'espace est un lieu lointain, et c'est un lieu supérieur, c'est un lieu substantiel. Un lieu où l'on peut demeurer existentiellement. Ce lieu, très souvent, est une île. Notamment dans chez Campanella, chez Thomas More, ce lieu est une île. C'est une île, bien entendu, parce que l'île signifie quelque chose d'autre. Signifie l'isolement par rapport au monde environnant, c'est-à-dire au monde présent. L'île représente, du point de vue de l'imagination profonde et du point de vue de la rêverie, des significations d'une importance considérable. Je prendrai rêverie soit au sens où l'entendrait Bachelard, mais également, je n'hésiterai pas à évoquer des réflexions de Jung, C.G. Jung. La rêverie sur l'île révèle, se met en évidence le désir que nous avons, non pas de l'isolement, comme on le croit trop souvent, mais le désir que nous avons d'un monde bien structuré et tout entier différent du monde tel qu'il existe. C'est déjà le désir de quelque chose que je serai obligé tout à l'heure d'appeler bonheur. Pour le moment, nous n'en sommes qu'à l'espace. Cet espace n'est pas facile d'accès, il est lointain, ce qui veut dire que l'utopiste sait très bien que l'utopie, ou ce que nous pourrions appeler, si vous voulez, le nouveau monde. L'utopiste sait très bien que le nouveau monde n'est pas à la porte à côté. Le nouveau monde est forcément loin. Il faut forcément faire un effort pour y accéder. Vous voyez que, en étudiant de cette façon indirecte et phénoménologico-imaginaire, le sens de l'existence de l'œuvre utopiste, curieusement, j'accède à des vérités indiscutables. Car c'est bien cela que tout un chacun désire quand il rêve d'une île ou quand il rêve d'un pays meilleur au loin. Mais en outre, bien entendu, et c'est le deuxième point, l'existence de ces utopies révèle la perception d'un temps ouvert. Car l'éloignement dans l'espace est métaphoriquement, j'emploierai très souvent le mot de métaphore et l'utilisation de la métaphore, je préciserai tout à l'heure, métaphoriquement, le voyage lointain, la distance lointaine, évoque l'éloignement aussi dans le temps. Et il est vrai que, du point de vue le plus réel et le plus réaliste qui soit, si l'on parcourt une longue distance pour aller atteindre un lieu qui existe maintenant, mais loin, il faut parcourir une longue distance et par conséquent je n'y accéderai, bien qu'il existe maintenant, je n'y accéderai que plus tard. L'utopiste pose une ouverture du temps, un éloignement dans le temps. Je ne veux pas dire le moins du monde. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Je ne veux pas mettre en évidence ici le moins du monde, ça serait plutôt le contraire. Cette idée de lointain qui a été exploitée, surexploitée et déformée par Heidegger et Nietzsche. Je ne veux pas dire le moins du monde que les utopistes ont découvert le lointain. Je veux dire que, situant leur réalité plus parfaite dans un lointain, ils en mettent en évidence la difficulté d'accès et la nécessité de le construire. Ce qui, dans mon esprit, n'est pas du tout la même chose. Ce lointain, c'est un lointain accessible. Mais ce n'est pas la porte à côté. Il faut opérer un travail ou un déplacement. En outre, ce temps ouvert manifeste, ou plutôt cet éloignement dans le temps, manifeste une conscience de la fécondité du temps. L'utopiste sait que le temps est fécond, c'est-à-dire que l'avenir peut nous fournir ce que le présent ne nous donne pas, si nous sommes actifs, bien entendu. En tout cas, il a la conscience de la fécondité du temps, mais surtout, il a la conscience, et c'est par ce point-là qu'on a pu opposer notamment Karl Mannheim, que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, dans l'un des ouvrages les plus importants à propos de l'utopie, ouvrage qui s'appelle, vous le savez, « Utopie et idéologie ». Eh bien, c'est ce point des utopies qui s'oppose exactement au marxisme, à savoir l'idée que l'utopie se plaçant dans un avenir se place toujours dans un temps contingent. Un autre temps est possible. L'utopiste affirme qu'un autre déroulement de nos événements, que celui que connaissent nos événements actuels, notre histoire, notre réalité, est toujours possible. Et que l'avenir est à construire et donc qu'en lui-même, il n'est pas prédéterminé. La pensée de l'utopie, l'existence même d'une utopie, prouve donc une sensibilité à l'expressivité existentielle de l'espace et à l'ouverture contingente du temps et de l'histoire. Ça n'est pas tout. Troisièmement, cela évoque la possibilité, et ici c'est, ça va vous paraître plus abstrait, mais je crois que c'est le plus important, la pensée, l'existence des utopies prouve la prise de conscience de la possibilité d'une réalité meilleure. Ça a l'air d'être une platitude. Vous allez voir qu'il n'en est rien. La pensée de l'utopie est la prise de conscience de la possibilité d'un autre lieu et d'un autre monde. Mais alors, c'est la manifestation effective de la possibilité qu'a toute conscience de s'arracher au présent. Elle est la manifestation, par le pouvoir de l'imagination, de ce pouvoir réel de toute conscience de s'arracher au présent. Vous voyez pourquoi il était important tout à l'heure d'insister sur la forme de l'utopie et pas forcément sur son contenu. Le travail que fait l'utopiste en inventant une autre société est bien plus important par le seul fait qu'il décide de chercher à dessiner une autre société que par les éléments qu'il va trouver dans cette société, qui ne sont jamais que des détails. Autrement dit, il y a un saut, une rupture, une cassure radicale entre le présent et l'avenir, et cette cassure est, si vous voulez, on pourrait dire le lieu de la liberté, l'endroit où se situe la liberté, la manifestation de la liberté. C'est parce que l'utopiste sait rompre le cycle de la causalité et des enchaînements présents, futurs, immédiats, et aussi de la causalité cause-effet, c'est parce que l'utopiste est capable de rompre cet enchaînement qu'il manifeste le pouvoir que possède tout esprit, en réalité, et pas seulement l'utopiste, le pouvoir de transcender le réel, et donc de le contester, de le dépasser, de le détruire, de le changer, de le reconstruire. C'est tout cela qu'a vaguement pressenti, qu'ont pressenti les philosophes lorsqu'ils réfléchissaient sur l'utopie, et c'est un petit peu ce que également a pressenti Marx et les autres. Marx et les autres ont tout simplement été effrayés de la puissance explosive de la simple pensée utopiste. Car encore une fois, elle vaut par ce qu'elle prouve quant au pouvoir de l'homme. Autre point, quatrième point, si vous voulez, elle manifeste le pouvoir de l'imagination, cela est clair, mais elle manifeste que l'imagination est un pouvoir d'arrachement et de liberté. En outre, elle manifeste le fait, d'une façon peut-être plus obscure, l'espèce de croyance dans le pouvoir créateur d'une imagination qui anticipe. Une imagination qui anticipe commence peut-être déjà à construire. Et vous savez d'ailleurs, je n'ai même pas éprouvé le besoin de le dire, parce que ça c'est ce qui est évident et connu de tous, vous savez très bien que de nombreux éléments concrets des utopies anciennes sont réalisés aujourd'hui. Pas directement grâce à l'efficacité de l'utopie, mais l'utopie avait le sentiment obscur que ces choses-là pouvaient se réaliser. Mais il n'est pas suffisant de remarquer l'émergence empirique des prévisions empiriques des utopistes. Ça, c'est de la futurologie sociologique qui n'est pas très intéressante. Alors, jusqu'ici, on pourrait donc se dire que l'utopie révèle tellement de choses qu'elle pourrait en effet nous suffire. suffire à notre interrogation sur l'avenir. Nous nous demandions quel rapport allons-nous avoir avec l'avenir, puisque des utopies existent et qu'elles révèlent tant de pouvoir en nous sur l'espace, le temps, l'arrachement, la liberté, la contingence. Eh bien, il suffit d'être utopiste et nous aurons à l'égard de l'avenir une attitude confiante, puisque maintenant nous savons que les utopies révèlent des choses réelles, pas même dans leur législation, dans leur existence. Donc, nous sommes déjà plus près de quelque chose de réel. Et pourtant, ça ne va pas nous suffire. Elle est insuffisante. Elle est insuffisante et ne donne pas assez ses fondements. Tout d'abord, il faut dire que tout ce que je viens de dire n'est jamais expliqué ni exprimé par aucun utopiste. L'utopiste ne sait pas ce qu'il fait. Il fait tout ce que je viens de dire, mais il ne le sait pas. Il se jette tête baissée dans l'imagination de l'avenir. Il trouve que la société n'est pas satisfaisante, il y a des problèmes, lui va amener sa solution. Il y a des problèmes dans le monde ouvrier au 19e siècle, Fourier va amener sa solution. En réalité, ce qu'il fait est beaucoup plus extraordinaire que ce qu'il pense même faire. Il réalise tout ce que nous avons dit. D'une façon plus générale, cependant, les utopies ne peuvent pas répondre totalement à notre question, voici pourquoi. Parce que, malgré tout, l'utopie se présente trop souvent comme ayant choisi comme lieu de réalisation de son idéal l'ailleurs. J'ai même dû tout à l'heure prendre une précaution pour éviter une interprétation négative, parce qu'il est tout de même vrai que l'utopie, le mot même d'utopie voulant dire n'existant en aucun lieu, l'idée même d'utopie semble nous suggérer tout de même d'une façon un peu discrète, nous suggérer discrètement que, bien sûr, on peut refaire le monde, mais tout de même, il ne faut pas avoir trop d'illusions, tout cela se situe ailleurs et là-bas. Ailleurs et là-bas, c'est l'imaginaire, et c'est peut-être l'irréel. Or, l'utopie, et c'est sa deuxième lacune, ne donne jamais le moyen de franchir la distance qui sépare le réel présent de l'utopie future. Il ne donne jamais la problématique du passage du présent au futur, parce que justement, n'ayant pas réfléchi sur les fondements, c'est-à-dire les conditions de possibilité de la pensée utopiste, il n'a pas été cherché dans la conscience, c'est-à-dire, comme je le ferai tout à l'heure, dans le sujet, les conditions de possibilité non seulement d'une pensée utopiste, mais d'une réalisation. La distance au réel paraît infranchissable. Elle paraît tellement infranchissable que la critique traditionnelle des marxistes a été de montrer que les utopistes ne donnent pas les moyens de leur réalisation. Les matérialistes marxistes seuls donneraient les moyens de réaliser la révolution, mais les utopistes sautent par-dessus l'histoire, ils se situent à l'arrivée et ne donnent pas les moyens d'y parvenir. Et les utopistes ne peuvent pas répondre à cela. Ils devraient le pouvoir, ils ne le font pas, parce qu'ils ne se sont pas placés dans une perspective philosophique du sujet. Ils ont cru que l'utopie était, très souvent, longtemps ils ont cru que l'utopie était un genre littéraire, sans plus, et que l'utopie était la manifestation aussi, et sans plus, d'un pouvoir d'imaginer. Ils n'ont pas été jusqu'à expliciter phénoménologiquement les implications d'un pouvoir d'imaginer. D'ailleurs, il y a quelque chose maintenant qui on représente un petit peu la cible de ce qui a été la cible la plus fréquente chez ceux qui ont critiqué l'utopie. Il faut reconnaître aussi que très souvent les contenus sont arbitraires ou dangereux. Peut-on penser parfois ? Les contenus sont arbitraires. Un petit peu comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ce n'est pas complètement arbitraire de renoncer à ce que ce soit la vaisselle des classes possédantes qui soit en or, et de faire plutôt que ce soit les instruments de tous les jours ou les chaînes des prisonniers qui soient en or. C'est pas tout à fait arbitraire, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire quelque chose d'une façon un peu trop forcée, c'est vrai. Même une société égalitaire, une société totalement juste, qui aurait réalisé l'égalité financière, ne fabriquerait pas des chaînes en or pour les prisonniers, n'ayant pas besoin de démontrer que l'or n'a pas de valeur. L'or aurait la valeur d'un métal particulièrement utile à travailler. Et par conséquent, il ne serait sans doute pas gâché. C'est un petit exemple pour vous montrer que peut-être, parfois, les mesures de détail sont arbitraires. Parfois, les mesures de détail ne sont pas justifiées ou sont très en deçà de nos possibilités réelles. Je pense par exemple à une certaine proposition de Proudhon sur une certaine forme de banque. Mais la forme de banque que propose Proudhon, c'est quelque chose de vraiment très, très en arrière, très archaïque par rapport à ce que peut faire aujourd'hui n'importe quelle banque coopérative. N'importe quelle mutuelle, n'importe quelle banque coopérative, n'importe quel organisme coopératif de crédit réalise des choses infiniment plus révolutionnaires que ce qu'imaginait Proudhon en ayant l'air d'avoir inventé le meilleur de la révolution. Par conséquent, souvent, les mesures sont arbitraires, parfois dérisoirement faibles par rapport à ce qu'on est capable en réalité de faire, et c'est paradoxal ce que je vous dis, et parfois même, elles sont dangereuses de la façon suivante. Les utopies sont parfois dangereuses parce qu'elles tentent de rationaliser à outrance la vie sociale. Pratiquement, elles ne laissent plus, dans la plupart des utopies, c'est ainsi, elles ne laissent plus ce que j'appellerais de possibilité pour un espace privé, elles ne laissent plus d'espace privé, et elles ne laissent plus de jeu contingent dans l'organisation de la vie sociale. L'utopie est une organisation bureaucratique autoritaire. Souvent, la critique qu'en fait Gilles Lapouge est tout à fait générale, il affirme ce que je viens de dire d'une façon tout à fait générale. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Il y a dans les utopies un souffle de générosité qui montre que la rationalisation à laquelle nous assistons n'est pas du tout destinée à instaurer le despotisme, mais à instaurer un peu plus de raison par rapport à une société tellement injuste et chaotique que, marquée par la déraison, elle produisait l'esclavage. L'inspiration n'est pas despotique, elle est juste. Je constate seulement que de temps à autre, peut-être, le souci de rationalisation peut ouvrir la porte, peut-être, parfois, à ce qu'aujourd'hui nous appelons à bon droit la bureaucratie. Et que une telle pensée utopiste qui tomberait dans la bureaucratie serait la trahison de son propre mouvement de départ, qui était d'arrachement et d'invention. Autrement dit, et là nous pouvons conclure sur l'utopie, l'utopie nous révèle des choses intéressantes, des dimensions existentielles importantes, mais elle ne sait pas réaliser et prendre au sérieux ces dimensions, elle les réalise, ce pouvoir d'invention, elle le réalise d'une façon dont il faut bien dire qu'elle est trop souvent un peu artificielle et ratiocinante, parfois. Chez Fourier, il y a, je crois, 618 passions, ou plus. Il y a 600 passions, il faut qu'il y ait un métier par passion. L'idée est juste, il faut, dans son métier, réaliser notre propre personnalité. Mais est-il nécessaire, parce qu'on a besoin de 600 métiers, inventer 600 passions? Ça, c'est la bureaucratie. C'est du kantisme appliqué à l'utopie. Alors, donc, il y a là quand même quelques problèmes. D'où viennent ces difficultés? C'est que l'utopie n'a pas réfléchi sur son fondement, sur sa base. Et la base de l'utopie, ça n'est pas seulement, comme je l'ai laissé entendre jusqu'à maintenant, la base de l'invention utopique n'est pas seulement la liberté même, la liberté d'un sujet individuel, et pas comme on croit d'une collectivité. Le fondement de l'utopie, c'est sa condition de possibilité, c'est la liberté. Mais pas seulement. Parce que la liberté est la condition de possibilité de toute entreprise, de toute réalisation vers l'avenir. Fût-ce une réalisation de rendement, une réalisation matérielle, une réalisation pragmatique, ou une réalisation nocive, ou une réalisation indifférente. Donc, situer au fondement de la pensée utopiste la liberté est insuffisant, c'est pourquoi il faut lui situer à ce fondement une deuxième source, et ce sera le désir. Il faut qu'il y ait ces deux sources à la création utopiste, la liberté et le désir. Le désir qui, justement, va nous permettre de comprendre ce que c'est que le bonheur, c'est le désir qui nous permet, le désir pris au sens large, bien entendu, au sens de mouvement existentiel vers la vie, au sens où le prenait Spinoza, mouvement pour persévérer dans l'existence, mais même dépasser l'existence. Eh bien, c'est seulement avec ces deux piliers, le désir et la liberté, que l'on va pouvoir comprendre ce que c'est que l'utopie. Et que l'on va pouvoir
répondre aux questions qu'elle laisse ouvertes et peut-être se rendre capable soi-même de construire quelque chose de plus solide et de plus profond que les